pour accompagner les migrants et migrantes dans leur parcours, il y a des bénévoles qui sont là pour les logements, la nourriture, les démarches administratives, pour organiser des cafés et d'autres temps conviviaux. Et puis il y a Monique Guckenluck, artiste portraitiste, qui permet à quelques personnes migrantes de passer un temps privilégié, mais surtout de laisser une trace.
Mon travail était secrétaire médicale, mais après mon travail, j'ai toujours fait du dessin. Dans la famille, on dessine beaucoup. Je fais du dessin, du modèle vivant, donc j'ai appris à dessiner très rapidement. Mes dernières années au Beaux-Arts de Boulogne, j'ai parlé à mon professeur, j'aimerais dessiner les exilés parce que je m'intéresse à leur vie, à leur histoire douloureuse et dramatique. Je pense que c'est un drame humanitaire. Alors il m'a dit, Monique, tu sais dessiner, tu sais peindre, si tu peux le faire, vas-y. Donc je me suis présentée au Secours catholique de Calais en mai 2019. J'ai été bien reçue. Au début, je n'y allais pas très souvent, mais de plus en plus, ça m'a pris vraiment dans mon cœur de m'installer parmi eux. Je me suis dit, ces gens-là n'ont pas choisi de vivre dans des pays en guerre, comme dirait Maxime Le Forestier. Être né quelque part, c'est toujours un hasard. Parce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent. Donc, posons-nous la question. Nous sommes bien nés, nous avons un toit, nous avons à manger. La moindre des choses, c'est d'ouvrir notre cœur, de leur donner de l'empathie, de la bienveillance. C'est ce que j'ai fait à travers ce que je savais faire. L'art est un formidable outil de communication. C'est ainsi que j'ai commencé.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des portraits, et plus particulièrement des portraits de migrants et migrantes ?
Ça m'interpellait depuis des années. J'entendais à la radio que tous ces gens qui fuyaient la guerre, les persécutions, j'ai trouvé ça terrible. Et ces gens que personne ne voulait, en fait, ce sont des invisibles. Et moi, j'ai voulu les rendre visibles. Nous existons à travers le regard de l'autre. Donc, je me suis assise parmi eux et je les ai dessinés. Et ils m'ont rendu ces regards profonds où, à travers tous ces regards, j'ai lu leur histoire douloureuse, terrible, et la sensibilité que je pouvais mettre dans un portrait, c'est formidable.
Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Monique Guckenluck réalise des portraits de migrants et migrantes. Elle nous raconte comment ces rencontres se déroulent.
Alors je m'installe à l'accueil de jour du Secours catholique. C'est une grande salle où maintenant les hommes et les femmes sont séparés. Il faut savoir qu'il y a très peu de femmes par rapport aux hommes. Donc, parfois, je vais dessiner les femmes, mais souvent, je dessine les hommes parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, je mets 10 minutes pour faire un dessin. Donc, mon dessin s'est affirmé avec le temps. J'y mets beaucoup plus de couleurs, je remplis plus ma page. Et maintenant, lorsque je finis un carnet, généralement, je mets un mois à le remplir. Un carnet de 100 à 120 pages. Donc, lorsqu'il est terminé, j'accroche des photocopies de ses dessins au mur. Donc, ils sont heureux d'être affichés.
Et est-ce que c'est vous qui allez vers les migrants pour leur demander si c'est possible de leur faire un portrait, ou est-ce que c'est plutôt eux qui viennent vers vous ?
Au départ, je m'installe à une table quelconque. Je leur dis, je dessine. Donc, je montre ce que je fais sur le mur, généralement. Et je montre mon carnet, je montre quelques dessins. Donc, je m'assois et généralement, lorsque ça commence, les autres suivent. Je n'ai pas besoin de leur demander. Quelquefois, je leur dis même, je vais vous mettre des tickets parce que ils se battent pour eux, pour passer les uns devant les autres. En fait, lorsqu'ils me voient dessiner, ils s'installent. Parfois, d'autres sont derrière moi et me regardent faire. Alors je me dis, ça leur passe le temps, ça leur fait oublier un instant leurs problèmes. Ça amène un petit peu de beauté et d'intérêt à chacun.
Alors une grande partie des personnes que vous croisez ne parlent peut-être pas français. Comment vous communiquez ?
Je communique en anglais. Je leur demande « What is your name ? How old are you ?» And which country do you come from? Voilà, ce sont mes trois principales questions. Donc, leur nom, leur prénom, je ne leur demande pas leur nom, leur âge et leur pays d'origine. Parfois, je leur demande par où ils sont passés, mais maintenant, je leur demande peu, parce qu'en 10 minutes, je ne vais pas leur poser trop de questions sur leur vie. Parfois, lorsque les personnes sont plus âgées, je leur demande leur métier. Mais souvent, ce sont des jeunes hommes qui fuient la guerre, souvent des Soudanais, des Érythréens, des Éthiopiens, des Afghans, parfois la Côte d'Ivoire, voilà, des Iraniens aussi qui fuient les persécutions.
J'imagine que vous communiquez aussi beaucoup par le regard. Est-ce que parfois, il y en a qui se sentent suffisamment à l'aise pour expliquer un peu leur histoire ou leur parcours ?
Parfois, même lorsqu'ils ne veulent pas être dessinés, parfois ils me montrent des images. Je me souviens d'un jeune africain, je ne sais plus de où, éthiopien peut-être, m'a montré ses bêtes à cornes. Donc, j'ai compris qu'il avait fui, puisque peut-être ses bêtes, il les a perdues ou on lui a pris. J'ai deviné une histoire dramatique derrière. Parfois, ils me montrent leurs enfants, ils me montrent leur maman. Parfois, ils me demandent de dessiner leur maman. C'est difficile de dire non. Parfois, je ne dessine qu'en direct.
Il y a des portraits de personnes souriantes, il y en a d'autres personnes où on sent des émotions un peu plus fermées. Est-ce que vous donnez des indications aux personnes ou est-ce que vous capturez plutôt des émotions ?
Parfois, je remarque des jeunes qui n'osent pas venir vers moi. Notamment, je me souviens d'un petit Syrien dernièrement qui était à l'écart, qui me regardait par en dessous. Je lui dis « viens », il n'osait pas venir. Et j'ai vu dans ses yeux beaucoup d'émotions, même des larmes. Et ça m'a beaucoup touchée. Il avalait sa salive tellement il était ému d'être dessiné. Et ce sont tous ces regards-là. Et généralement, leurs regards sont très graves. Je ne leur demande pas de... Parfois, il y en a qui sont très gays, mais je leur demande de sourire, mais pas de rire. Donc, en fait, ils me comprennent très bien. Et c'est là où passe la gravité.
Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle, comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Réaliser les portraits de plusieurs migrants et migrantes, croiser leurs regards, partager leurs émotions, vivre ces moments, ça marque, ça laisse des traces, matérielles mais aussi émotionnelles.
Souvent, lorsque je les ai dessinés, je les prends en photo. Et parfois, je finis chez moi lorsque j'ai pas suffisamment capté un regard ou une expression, mais je ne peux pas me permettre de finir tous mes dessins. Mais lorsque je revois leur visage, j'ai beaucoup d'émotions, même parfois des larmes. Parce que je me dis, c'est injuste que la moitié du monde ait le droit de vivre et l'autre moitié n'ait pas le droit de vivre. En fait, ça se résume à ça pour moi.
Vous aussi, vous laissez une trace sur chaque dessin. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous notez le prénom, l'âge de la personne, parfois les pays traversés. Est-ce que c'est une manière de rendre compte de l'humain derrière le portrait ?
Ben, les portraits parlent d'eux-mêmes parce qu'ils sont très forts. Et en fait, lorsque vous voyez au Secours catholique mon mur de portraits, ça laisse personne indifférent, je pense.
Aujourd'hui, vous diriez que vous avez combien de portraits en totalité ?
Je suis arrivée à mon 23e carnet de 120 pages. Pendant le Covid, j'ai repris mes premiers carnets puisque j'ai fait 70 pastels environ. Donc un pastel, ça me prend beaucoup plus de temps, ça me prend une journée complète. Donc certains de mes pastels ont été mis dans des églises. J'ai aussi le responsable de France Terre d'Asie qui a vu mon mur de dessin, qui m'a demandé d'aller à Saint-Omer pour dessiner les mineurs exilés. Donc de temps en temps, je vais à Saint-Omer également. J'ai exposé au Portel lors d'une soirée iranienne. J'ai exposé aussi à Outreau où Christophe Ringaud m'a exposé le plus de dessins que je n'ai jamais eu d'exposer. J'ai exposé aussi au sein de mon club photo, à Marquise, au Château Molac. Donc voilà, j'ai exposé à l'Université de Calais avec les dessins des exilés également.
Est-ce qu'on peut vous voir prochainement sur une autre exposition ?
Pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Mais vous pouvez toujours venir à l'accueil du Secours catholique. C'est possible, toute personne a la possibilité de passer voir les dessins.
Est-ce qu'on peut aussi venir vous voir en train de dessiner les migrants au Secours catholique ?
C'est toujours possible. Il y a beaucoup de personnes qui passent au Secours catholique et s'arrêtent derrière moi pour me regarder faire. J'ai l'impression qu'on fait partie d'une chaîne, au moins c'est une chaîne d'amour, une chaîne d'humanité, c'est ça. L'humanité, c'est l'amour que l'on peut donner les uns aux autres.
Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays, si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yanna au feu rouge.
Des parcours de migrants et migrantes, il y en a beaucoup. Au cours de nos échanges, j'ai appris que Monique a aussi rencontré Amir, professeur de dessin yéménite, torturé par des groupes armés après avoir refusé de faire des logos pour eux. Elle a aussi croisé le chemin de Tchadiens, marqués au fer rouge pour leur homosexualité. Et, je cite, « il faudrait trop de temps pour raconter une infime partie de leur misère ». Ce sont les mots de Monique. Le 5 août, l'artiste exposera des photocopies de ses dessins au marché bio de Vierre-et-Froid, à 10 km de Boulogne-sur-Mer. Sinon, vous pouvez retrouver quelques portraits sur son Facebook, Monique Guckenluck.